aujourd'hui, le thème est très clair. Il s'agit de méditer à la lumière de l'Évangile, eh bien notre rapport avec l'argent et les rapports du monde avec l'argent. Ça commence avec la lecture d'Amos. Amos, ça nous fait remonter au 8e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque où Israël avait connu un schisme politique et était divisé en deux territoires. Un gros royaume au nord, et c'est là que le prophète Amos prophétise, et puis un territoire plus petit au sud, avec Jérusalem pour capitale et la Judée autour, c'est le royaume du sud. Le peuple, le prophète, prêche contre les dirigeants, contre l'élite du royaume du nord, parce qu'il est fondé, la logique de ce royaume est fondée sur l'injustice des riches. Et riches, ça veut dire aussi ceux qui décident politiquement à l'époque. Il n'y avait pas, c'était la même chose. Ce royaume du Nord, pourtant, c'était Israël. Ah, certes schismatique, certes qui voulait empêcher les gens d'aller. C'était Jéroboam, le premier de ces rois, qui a voulu construire deux temples à ses frontières au nord et au sud pour empêcher les gens d'aller à Jérusalem. Vous voyez, il y avait déjà cette friction, mais le monde religieux, la loi était quand même commune. Mais les gens ne tenaient pas compte de la loi. Alors comment le comprendre? Après l'installation en Palestine, ça a été très laborieux. Il y a eu toute une période qu'on appelle la période des juges. Là, Dieu suscitait des libérateurs militaires et en même temps politiques, mais momentanés, à Israël. On les suivait pour être libérés du joug des voisins, les Philistins, les Ammonites, etc. Ensuite, c'était sous le prophète Samuel, le grand prophète de l'Ancien Testament, que les gens ont demandé, qu'il y ait un roi, d'avoir un roi comme les autres nations, c'est-à-dire quelqu'un qui soit plus temporaire, quelqu'un qui soit plus choisi comme ça, d'une manière aléatoire par Dieu, mais quelqu'un sur qui on puisse compter, qu'on puisse mettre dans une planification, en quelque sorte, les rois et leurs descendants. Le prophète Samuel a résisté, il ne voulait pas faire ça parce qu'il voyait bien que c'était complètement tourné contre Dieu, mais Dieu lui a dit, laisse faire, ils le paieront très cher. Et de fait, Israël l'a payé très cher, parce que Israël, petit à petit, est devenu comme les nations. Alors revenons à notre christianisme européen. Le christianisme européen a fait un peu la même chose. Je ne parle pas des rois, là. Je ne parle pas des républiques. Là, je parle de l'abandon de Dieu, de l'éloignement de Dieu. Et ça, l'argent est lié à cet éloignement. Et petit à petit, oui, nous avons eu des rois, ou des princes, des grands, toutes sortes de gens pour nous gouverner, comme aujourd'hui. Des princes élus pour 5 ans, mais qui font tout ce qu'ils veulent pendant 5 ans. Et c'est toujours des princes, quoi. C'est pas la vraie démocratie, qui n'est qu'un idéal, qui n'est pas une réalité. Et l'argent, eh bien, c'est quelque chose qui pourrit littéralement le cœur des hommes. C'est ce que disait Amos au 8e siècle avant notre ère. Je veux dire, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce prophète prêche 20 ans avant l'exil. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a eu après au bout de 20 ans? Eh bien, les Assyriens sont venus, ils ont conquis le royaume du Nord, ils ont déporté toute la population dans leur immense empire, et ils ont repeuplé le Nord, le royaume du Nord, donc une bonne partie de la Palestine, avec des populations païennes qui venaient de leur empire. C'était le meilleur moyen de gouverner et de ne pas avoir de révolte. Voilà ce qui est arrivé, une sorte d'anéantissement religieux total. Amos les prévient, si vous continuez ainsi, vous allez le payer très cher. L'injustice, Dieu déteste l'injustice. Pourquoi? Pas l'injustice seule, pure et dure. Bien sûr, celle-là, Dieu la déteste, mais parce que quand là où est l'injustice, là est aussi l'idolâtrie, le refus de Dieu. Parce que l'idolâtrie, c'est la véritable cause de l'injustice, dit Amos ailleurs dans son livre. Le refus de Dieu et de sa loi, c'est ça l'idolâtrie. Et l'argent qui devient un dieu, une divinité, et qui prend sa place, comme dit Jésus, eh bien, chasse le Dieu véritable et sa loi de sainteté. Les édictes mènent le peuple entier, disait déjà Amos à son temps, à sa perte. Et ça, 20 ans plus tard, c'est ce qui arrivera. 20 ans plus tard, c'est pas seulement l'élite, c'est le peuple tout entier qui sera victime, eh bien, du grand fléau de l'exil. Passons à Jésus, à l'évangile de ce jour. Jésus reprend finalement les mêmes thèmes, mais il explique avec beaucoup de sagesse et avec beaucoup de détails. Vous voyez, comme Jésus il planait pas le Seigneur. Il savait bien ce qu'était l'argent, la mentalité des hommes. Vous voyez, sa parabole et ses commentaires. Il sait très bien comment fonctionne le monde. L'argent fait perdre le sens de Dieu, c'est ce que déclare le Seigneur. C'est une idolâtrie sous la figure du bonheur. Mais c'est une chimère. Elle a belle apparence, cette idole, mais elle ne donne pas la vie, elle ne communique pas le bonheur. Nous devrions vraiment méditer sur cela et faire méditer nos contemporains le plus possible. Parce qu'au moins, le thème de l'argent, c'est un thème facile à aborder. Ce n'est pas quelque chose qui plane à 1000 lieues au-dessus de la tête des gens. C'est quelque chose qui les préoccupe 100% de leur temps, y compris quand ils dorment. Donc, si vous voulez parler un petit peu des enseignements de Jésus de manière concrète, eh bien, on a ces enseignements sur l'argent sont très intéressants. Il nous dit que le monde, eh bien, finalement, acclame le mensonge, acclame les voleurs. C'est le gérant habile. Ah, là, le monde acclame ce qui lui ressemble, parce que le monde est voleur, le monde est mensonger. Donc, si vous avez quelqu'un de voleur, de mensonger, le monde l'acclamera. Jésus nous en donne l'exemple dans sa parabole. La relation des hommes à l'argent, elle est très significative, elle révèle les secrets des cœurs. Quand on voue un culte à l'argent, on peut pas. Il faut choisir entre Dieu et l'argent, nous dit Jésus, et c'est tellement vrai. Les gens qui vouent un culte à l'argent, qui mettent leur confiance dans l'argent pour compenser un défaut d'être, par l'avoir, pour avoir une image à mettre sous les yeux des autres, et pour avoir évidemment tous les conforts matériels, toutes les jouissances possibles au maximum, eh bien tout cela nous égare, tout cela conduit malheureusement à notre perte et forme une génération de mercenaires et non pas de pasteurs au niveau des élites. Être digne de confiance, c'est le critère sur lequel eh bien, Jésus nous dit que nous serons jugés dans ce passage. Votre bien, ce qui vous appartient, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qui nous appartient, c'est la destinée de l'âme, c'est notre âme, c'est la vie. Eh bien, ce qui nous appartient, eh bien, ne nous sera donné que dans la mesure où nous aurons utilisé l'argent malhonnête, dit l'Évangile, c'est-à-dire trompeur, on peut traduire comme ça aussi, je dirais illusoire. Vous voyez, l'illusion, la notion d'illusion et de chimère. L'argent chimérique, l'argent qui n'est rien que poussière et qui se déguise en Dieu, en divinité, qui apparaît ainsi sous nos yeux. Le monde contemporain donne vraiment à réfléchir, puisque le monde entier, dans le processus de globalisation, veut mettre l'argent comme dynamique pour organiser le monde, structurer les relations entre les États et entre les personnes. Il y a quelques idéologies, d'ailleurs très mauvaises, qui continuent de résister parce qu'elles ont mauvais caractère, genre marxisme chinois ou d'autres choses de la sorte, ou djihadisme mahométain. Mais en dehors de cela, On peut dire que la globalisation autour de l'argent, par la dynamique de l'argent, cette espèce de pompe à vide, elle vide tout ce qu'elle touche, eh bien, ça marche très bien. Alors évidemment, il faut revenir à ce qui nous appartient. C'est notre vie. Est-ce qu'on va vendre notre vie pour une poignée de monnaie? Il y a des gens qui se rendent esclaves toute leur vie durant, et il y en a beaucoup, pour simplement une poignée de piécettes pour gagner leur vie. Alors il y a ceux qui sont dans le besoin, mais il y a ceux qui en veulent plus. Et là je parle des avares. Et il y a beaucoup d'avares dans le monde. C'est pas pour leurs besoins, là, ça va au-delà, mais pour cet au-delà de leurs besoins, pour avoir plus, quoi, pour ne pas manquer, eh bien, ils sont capables de vivre une vie d'esclave. Qu'un homme, une femme qui n'a rien, qui vit dans une misère profonde, soit réduite à l'esclavage pour subsister, ça se comprend. Mais qu'on se mette sous le joug de l'esclavage par avarice, c'est de la bêtise pure et simple. Et l'homme qui voue un culte à l'argent est une espèce de bête sans pensée. C'est ce que Jésus nous dit. Réfléchissons au fléau de l'Apocalypse. L'Apocalypse nous dit qu'à la fin des temps, l'humanité, là, structurée autour de Babylone, justement la cité commerçante, la cité qui structure le monde par sa culture de l'argent, eh bien, elle sera victime de fléaux. Et les fléaux, c'est quoi? C'est pas des agressions des hommes. Dieu ne va pas agresser les gens, les païens. Non, il fait craquer leur système. Comme actuellement, notre économie craque de tous les côtés. Ben c'est ça un fléau dans l'Apocalypse. C'est faire craquer ce sur quoi les idoles, donc ce sur quoi les hommes mettent leur confiance pour qui n'est pas Dieu, qui ne sont pas les chemins de Dieu, mais pour être heureux, pour accéder au bonheur, à la plénitude, à l'orgueil. L'orgueil fait naître bien des égarements. Méditons tout cela. Méditons les valeurs sur lesquelles nous devons construire notre maison, qui est notre vie, qui est notre âme, qui est notre destinée éternelle.